Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Beccarelli, je suis docteure en histoire, spécialiste de l'histoire de la radio. Et je suis très heureuse d'animer ce premier atelier qui va porter donc sur la première période des radios libres lyonnaises entre 1977 et 1981, c'est-à-dire au moment où ces radios étaient illégales, puisqu'il y avait un monopole d'État de la radiodiffusion qui interdisait l'existence d'autres stations. On va voir ça plus en détail. Dans un premier temps, donc, nous allons entendre trois présentations d'une dizaine de minutes qui porteront sur la présentation du contexte législatif et juridique des médias à l'époque. Ensuite, on aura une autre présentation qui sera une sorte de panorama général des initiatives de radio libre lancées à Lyon durant cette première période. Et enfin, on aura un premier bilan des entretiens qui sont menés dans le cadre de ce groupe de travail, donc qui a été créé en 2021. Il y a un certain nombre d'entretiens qui sont menés avec des pionniers et des pionnières de ces radios libres. Et on aura un premier bilan. Et puis, deuxième temps de ce premier atelier, une table ronde avec trois acteurs et actrices des radios pirates et radios libres de l'époque. Mais tout de suite, donc, je donne la parole à Jean-François Tétu, qui est professeur honoraire en sciences de l'information et de la communication à Sciences Po Lyon, qui va nous présenter le contexte juridique et législatif des médias durant cette première période.
Merci. Est-ce que ça passe, le son, là ? Vous entendez ? Parfait. Oui, alors, un caractère tout à fait remarquable des techniques de communication est que chacune, au moment de son émergence, produit quelque chose comme une techno-utopie. Je veux dire que la communication aurait le pouvoir d'engendrer une nouvelle forme d'égalité entre les gens et politiquement une nouvelle forme de démocratie. Par exemple, le discours des GAFAM aujourd'hui ou hier, en 84, le discours d'Énergie et de Libé qui l'accompagnait. Cette égalité suppose la disparition des clivages de classe et le déclin des conflictualités sociales et serait produite par l'unique fait de détenir, de disposer des technologies médiatiques. L'effet le plus clair de cette croyance est de donner à voir la communication comme une activité sociale autonome qui aurait sa consistance propre, c'est-à-dire sans rapport direct avec les pouvoirs, les intérêts de classe, les conflits, les profits et les marchés. Or, dans la perspective de la longue durée, trois grands ensembles d'acteurs sociaux se sont révélés décisifs. L'État, les corporations privées et les mouvements sociaux. Je vais donc tenter de les situer à très grands traits compte tenu du peu de temps dont je dispose. Le contrôle de la radio par les pouvoirs publics a marqué toute l'Europe, soit par un monopole d'État dans quasiment tous les pays, à deux exceptions près, une société privée investie d'une mission de service public au Luxembourg et un secteur privé totalement contrôlé par l'État en Espagne. Puis en très peu d'années, vous le savez, c'est ce qui nous occupe, au tournant des années 70-80, le paysage a été totalement transformé par le surgissement de radios libres ou pirates, on en reparlera. Puis très vite, par des modifications majeures des réglementations qui ont permis l'essor de radios commerciales privées qui ont été les principales bénéficiaires de la déréglementation. Il faut donc comprendre à la fois les raisons du contrôle public ou du monopole d'État, puis les raisons et modalités du bouleversement, et pour ça remonter un peu plus dans le temps. Donc, après l'invention de Marconi et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la radio sert uniquement de moyen de transmission militaire ou maritime. La bourgeoisie puritaine de l'époque ne peut envisager la communication que comme auxiliaire de l'activité économique ou militaire, un peu comme le téléphone d'ailleurs dans ses premières années. Puis, après 1918, un premier modèle se développe, celui de l'usage amateur de la radio, comme vous voyez dans certaines vignettes de Tintin. Usage permis par le fait que les soldats démobilisés avaient appris l'usage de la radio. C'est la première communauté radiophonique, celle des sans-filistes. Mais elle est déjà contrôlée par l'État, puisqu'il faut des licences d'émission et de réception qui renvoient à la législation sur le monopole des signaux qui date, elle, de 1837. Mais l'idée de construire un programme radiophonique vient d'autre chose. Un programme régulier qui sera très rapidement centré sur le divertissement, ça vient de la firme Westinghouse à Pittsburgh vers 1920. Le problème était que à cette époque, il fallait bricoler soi-même l'appareil de radio. Un peu comme nous l'avons fait, du moins les plus âgés d'entre nous, pour la Hi-Fi dans les années 60. Mais ça ne permettait pas de vendre massivement du matériel. Or, c'est ça qui était rentable. Pour pouvoir vendre du matériel, ce qui s'est passé aussi pour le disque, il fallait un programme. C'est ce qu'il y avait, c'est ce qui explique la lutte entre le gramophone et le phonographe. Et donc, ce fut le même problème avec la radio des années 20. Il fallait faire des programmes réguliers. Et c'est comme ça que la radio est devenue un média de masse. Car si la bourgeoisie était opposée à l'usage de la communication comme loisir, elle dut s'incliner devant l'évolution du mode de production capitaliste. En France, bien sûr, Ducreté avait installé dès 1897 son premier émetteur à fonction militaire sur le troisième étage de la Tour Eiffel, mais il manquait le programme. Il n'y avait qu'un embryon en 1921, celui où un sapeur-pompier lisait tous les jours un bulletin météo et les cours de la bourse. C'était vraiment un programme minimum. Pardon. Donc, en 22, le patron de la compagnie française de radioélectricité, Émile Girardeau, qui revenait des États-Unis, rapporte le modèle de Westinghouse en France et demande l'autorisation de faire des essais qui commencent le 6 novembre 22, donc 8 jours avant ceux de la BBC. Pardon. C'était Radiola et son présentateur Marcel Laporte sous le nom de Radiolo, dont une activité principale était de promouvoir les appareils Radiola, évidemment, donc même combat, matériel et programme pour pouvoir permettre sa diffusion. Ce sera plus tard Radio Paris. Le modèle de la radio commerciale privée est donc déjà en place complètement à ce moment-là. Certes, la publicité est interdite, mais l'interdiction est contournée par des contrats d'émission sponsorisés, formule qui sera reprise plus tard à la télé, vous le savez, pratique qui sera autorisée en France pour la radio en 25. D'autres stations suivent, pardon, dont Toulouse et Lyon, qui sont également la propriété de la compagnie française radioélectrique comme Radio Paris. En 26, un décret-loi prévoit qu'au bout de 5 ans, tous les postes autorisés seront propriété de l'État. Donc l'État prévoit dès cette époque un contrôle direct sur l'intégralité de la radio. Et en 28 et 29, 14 stations sont autorisées, en 33, l'État rachète Radio Paris, qui devient le poste national. Et la même année instaure la redevance, donc le financement du service public. Mais en contrepartie, les postes privés pourront recevoir de la publicité 60 ans avant l'essor des radios commerciales privées. Bon, les années qui suivent les années 30 sont tout à fait remarquables dans l'invention des modèles radiophoniques. J'en prends que deux exemples. C'est Marcel Bleustein-Blanchet avec Radio Cité qui développe la formule d'émissions phares comme La famille du raton, la radio Crochet, C'est lui qui lance Edith Piaf, etc. Énorme succès. Même chose sur le Poste parisien qui développe de nouvelles formules. Ça s'appelle le tribunal des intempéries, pas des délires. La course au trésor de Pierre Dac, etc. C'est la mise sur pied de nouvelles formules, bien longtemps avant les grosses têtes, mais qui vont durer des décennies. Alors, il y a d'autres choses aussi qui apparaissent. Par exemple, en 24, Gabriel Germinet diffuse un truc qui s'appelle Maremoto, qui est assez curieux. 10 ans au moins avant Orson Welles, c'est la guerre des mondes. C'est un reportage qui interrompt les programmes en direct, qui est supposé être un naufrage en pleine mer. Le reportage donne les coordonnées de ce naufrage qui est en plein Sahara, personne ne s'en rend compte, mais c'est un exemple assez typique de l'invention radiophonique des débuts, parce qu'une des caractéristiques des industries culturelles, c'est que c'est l'inventivité des programmes, c'est ça leur moteur. Et il peut se faire aussi que ces programmes soient directement l'adaptation au désir du temps. Je pense par exemple à ce qui caractérise l'audience, la montée de l'adolescence dans les années 50 et 60, avec le transistor et le tépas côté des matériels, mais évidemment la radio avec Salut les copains. Dans les années 30 aussi, il y a déjà deux postes périphériques. Il y a Radio Luxembourg à partir de 33, mais qui ne diffuse toute la journée qu'à partir de 37. Et puis en 33 aussi, il y a Radio Andorre, mais qui n'émet vraiment qu'un peu plus tard. Bref, en 1939, il y a 5 millions de postes pour 41 millions d'habitants et un réseau de 32 émetteurs, dont 20 pour l'État. La Seconde Guerre mondiale, vous savez, deux zones. La zone nord, où tout est aux mains de la propagande allemande, et où il y a cinq stations qui diffusent Radio Paris. Et je rappelle le slogan de Radio L'Ombre, Radio Paris ment. Pardon, Radio Paris est allemand. En zone sud, il y a la Radio Nationale, aux mains de Vichy, avec sept stations régionales, dont Lyon. Bon, cette période, c'est évidemment une chape de plomb pendant toute la guerre. À la Libération, il aurait pu se faire que, comme ça s'est fait pour la presse écrite, que le gouvernement autorise les radios non collaborationnistes. Elles n'avaient pas tout été. Par exemple, Bleustein-Blanchet avait rejoint la France libre dès le début. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est le Comité français de libération qui a imposé le monopole d'État et qui s'en explique dans un papier qu'on appelle le cahier bleu, et pour cela pour deux raisons. Première raison, c'est une raison pratique. Il y a peu ou pas de journaux, on manque de papier, etc. Je rappelle, parce que pratiquement personne ne le sait, que le contingentement du papier journal a duré jusqu'en 1958. Sur cette période des débuts, j'avais fait une assez longue intervention à la bibliothèque municipale qui a été publiée dans le volume « Intelligence d'une ville » par l'ABM en 2005. Ça, c'est la raison pratique. Ensuite, il y a une raison politique, et là, je vous cite le cahier bleu. Éviter que les hommes d'affaires qui arriveraient dans les fourgons des armées de libération ne puissent s'en servir et faire triompher des doctrines que nous avons condamnées. Donc voilà la justification première du monopole. Alors, quels sont le rôle et les atouts du service public ? D'abord, dès le début de la radio ou de la TV, c'est le même problème, il faut une normalisation stricte pour éviter les brouillages entre les stations et l'encombrement des fréquences, outre les questions liées évidemment à la souveraineté nationale. Cela indique le rôle majeur de l'État et ses prérogatives, mais aussi ses atouts. Il y en a un certain nombre. L'attribution des fréquences, le privé vient après. La puissance des émetteurs. Le financement, la redevance pour le public, la publicité pour le secteur privé ou ailleurs qu'en France. Ensuite, la programmation du service public avec un programme généraliste et fédérateur et une diversification progressive, soit vers des programmes culturels généralement élitistes du type culture et musique, soit vers des spécificités régionales à travers les radios locales décentralisées, ou bien vers des programmes de musique populaire vers les jeunes pour contrecarrer les premières radios pirates, je dirai un mot de Radio Caroline dans un instant. Les points forts du service public, c'est évidemment la culture et les programmes vers les minorités, mais aussi l'information, et puis la promotion des avancées techniques, par exemple l'isofréquence sur les autoroutes ou le radio data system avec l'interruption des programmes pour diffusion d'infos également sur les postes en circulation. Plus tard, ça sera la radio numérique, etc. Alors, ça, il ne faut pas l'oublier, hein, le rôle de pionnier qu'a eu le service public en termes d'introduction et de diffusion des technologies. Bon, il y a un certain nombre d'étapes, je passe très vite parce que je n'ai pas le temps. L'invention, alors le paysage est complètement transformé dans les années 70, et je ne prends que trois exemples en dehors de la région lyonnaise. Le premier, c'est évidemment Radio Caroline, qui, à partir de 64, diffuse essentiellement de la musique anglo-saxonne et qui est le point de départ de la diffusion des Beatles. Le modèle est proche de Salut les copains, sauf que c'est de la musique anglo-saxonne et que la musique anglo-saxonne, on ne l'entend pas en France. Je rappelle, parce que les plus âgés d'entre nous le savent, que la musique anglo-saxonne, le rock, etc., on ne l'entendait pas. C'est la raison pour laquelle les magazines sur lesquels on voyait des photos des chanteurs, des musiciens, etc., rock, podium, etc., ont eu autant de succès. Mais il faut attendre des années 70 pour qu'on la diffuse. Et c'est un des éléments qui explique le succès de Radio Caroline. Donc une communauté qui est fondée sur un mode d'identification particulier par la musique, c'est le modèle des jeunes. Autre exemple, en 69, Radio Campus Lille, dont le droit fil du mouvement de 68, qui est la première radio d'une communauté, disons les universités qui seront suivies par d'autres universités, les écoles, etc. Troisième modèle, tout à fait différent, on est à la fin des années 70 en Lorraine, avec la gigantesque grève des aciéries de Longueville, et la radio Longueville Cœur d'Acier, qui fut la radio des grévistes, avec un succès local colossal, puisqu'elle était le point de ralliement des grévistes. Alors, la fonction générale de ces radios, mais on y reviendra, c'est évidemment de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et de rendre compte des luttes, ou bien, pas forcément des luttes, mais des communautés locales qui ont des choses à dire. Il y a une exception, c'est que les radios strictement politiques ne marchent pas. Par exemple, en 1977, juste après les élections municipales, Brice Lalonde lance Radio Verte. Eh bien, ça ne marche pas. De la même façon, Mitterrand annonce Radio Riposte, qui n'aura qu'une seule émission le 28 juin 1979. Ça ne l'empêchera pas d'être condamné. Mais ça n'a pas marché. Ce qui a marché, c'est autre chose, dont en particulier Édouard va parler tout à l'heure. Alors, je voudrais signaler aussi qu'il y a un moyen technique qui permet cette rupture, c'est la modulation de fréquence, dont on reparlera certainement. Et il y a je dirais que c'est un moment idéologique dans la mesure où les Français sont fatigués du contrôle permanent du gouvernement et réclament que quelque chose change au niveau local, ce qui est tout à fait considérable. C'est un nouveau modèle. Alors, quelques lois, rapidement. D'abord, en 1978, Giscard d'Estaing demande à Jean-Philippe Lecas, qui est le ministre de la Formation, de faire une nouvelle loi pour renforcer le monopole. Bon, c'est la loi de 81, traque des radios clandestines, condamnation des auteurs, confiscation du matériel. Bon, Mitterrand et Fabius, par exemple, sont inculpés en raison de cette loi. La vraie rupture vient de l'élection de Mitterrand avec trois lois en trois ans. La loi de 81, d'abord, qui permet des dérogations précaires et révocables au monopole d'État, accordées aux seules associations, avec l'obligation de diffuser sur la bande FM, mais des limites considérables. Une association ne peut diffuser qu'une seule radio, une personne physique ou morale ne peut occuper une fonction clé que dans une seule radio, la diffusion est limitée à 30 km à partir du point d'émission, toute publicité est interdite, le contrôle technique est effectué par TDF, et les collectivités territoriales peuvent participer à une ou plusieurs radios au maximum. Ensuite, la loi de 82...
Excusez-moi. Je pense qu'on pourra l'aborder dans le deuxième atelier.
Je laisse passer la loi de 82. Je conclus simplement rapidement cela. Il faut restituer le phénomène radiophonique dans son historicité en regard des rapports de pouvoir qui lui sont consubstantiels. L'histoire, celle du temps long, est jalonnée de mobilisation et de lutte sociale par lesquelles les questions de communication, de médias ou d'information ont été investies des stratégies politiques de divers acteurs sociaux. Si elle s'est avérée un enjeu et un instrument de libération et d'émancipation, la communication a aussi constitué une des voies de l'hégémonie et de la conquête. En fait, depuis l'émergence des premiers systèmes médiatiques, la mainmise sur les moyens de circulation des idées, des biens et des personnes a été une des clés maîtresses du pouvoir politique, économique, voire militaire. Il faut donc retrouver la manière par laquelle les groupes et les individus s'expriment politiquement dans nos sociétés, à travers la conception et l'appropriation des moyens de communication. Donc il ne faut surtout pas isoler les médias du processus social dans sa totalité en ne les décrivant que par leurs caractéristiques techniques, presse, radio, télé ou Internet, leur mandat, divertir, informer, éduquer, publiciser, ou leur contenu, catégorie, genre ou format. Il s'agit plutôt de les concevoir en tant que résultat de la dynamique des rapports sociaux. Les tensions idéologiques donnent aux pratiques médiatiques et par conséquent à la communication leur importance politique comme terrain privilégié d'alliances et d'affrontements entre les acteurs sociaux dans l'affirmation de leur interprétation des réalités sociales. Je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-François Tétu pour cette présentation, cet historique, ce retour sur le temps long de l'histoire de la radio et le point de vue législatif et juridique. Je passe désormais la parole à Édouard Lynch, qui est professeur d'histoire à l'Université Lyon 2, qui va précisément nous proposer un premier panorama des initiatives de radio, des premières radios libres à Lyon.
Merci Marine, merci Jean-François pour cette présentation. On voit évidemment que les historiens et les scientifiques sont toujours beaucoup plus prolixes que les journalistes qui savent tenir l'antenne. Et je vais essayer de ne pas faire pareil. Enfin bref, je vais essayer de ne pas être trop long. Dans une intervention que j'ai bêtement appelée ici, on commençait par le début. Pour esquisser une première clarification du paysage lyonnais et rhône-alpin, hein, dans la première période, celle qu'on peut qualifier de radio pirate, hein, plutôt que de radio de libre, puisqu'on est dans cette période effectivement de l'interdiction et de la surveillance. Comme l'ensemble de cette demi-journée, hein, je crois qu'il faut vraiment le dire et le redire, on est au début, on n'est pas à la fin du projet. Voilà, donc on va simplement poser quelques jalons. Cette clarification est d'autant plus nécessaire que cette première période que je vais esquisser en quelques minutes, hein, de 1976 à 1980, est une période complexe pour l'historien, dans la mesure où... on a des sources, par exemple, archivistiques, administratives. Hein, je pense, par exemple, aux sources de la répression, hein, contrôle de RTF, les renseignements des RG qui existent, hein, mais qui sont accessibles sur dérogation. Donc, il faut plusieurs mois pour les obtenir. Et donc, voilà, ça fait partie des sources dont on sait qu'elles existent, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de regarder. Les sources privées. Donc les sources produites par les acteurs, hein, qui ne sont pas soumises à des obligations de dépôt, elles, pour une période aussi troublée, mouvementée et chaotique que la période des radios pirates, elles sont très difficiles à trouver. On en a eu un exemple tout à l'heure, mais ce sont vraiment des tout petits bouts d'histoire qu'il faut aller chercher de façon... très lente, et c'est aussi le but de cette journée de motiver, hein, tous ceux qui sont intéressés par cette question à ouvrir leur tiroir et leur grenier. Et donc la source que je vais vraiment utiliser là dans cette présentation, c'est finalement la presse, hein, finalement. Faire l'histoire des médias radiophoniques, c'est surtout travailler sur la presse, hein, qui est une observatrice extrêmement fine et précise de ce qui se passe. Bien sûr, c'est pas une presse, enfin, c'est pas une source absolue, hein, elle a des trous, elle a des biais, mais elle est nécessaire, et je m'appuierai en particulier, hein, sur les revues de presse qui ont été constituées par les documentalistes de la bibliothèque municipale, hein, qui, hein, dans un temps lointain, découpait les journaux et les collait dans des classeurs pour faire des revues thématiques. Et donc, un étudiant, Kemal Bakar, qui travaille sur ce sujet en master d'histoire, a retrouvé ces dossiers sur une longue période, et qui sont des entrées particulièrement intéressantes. Alors, le premier constat qu'on peut faire, hein, si on prend une vue d'ensemble de ce qui se passe à Lyon durant ces années, c'est finalement la similarité, hein, entre le paysage lyonnais et le paysage national, à savoir la convergence d'une dynamique nationale de contestation du monopole, donc critiquer effectivement l'absence de liberté d'expression évoquée précédemment, et puis des expérimentations locales issues de rapports de force spécifiques, politiques, sociaux, culturels. Un autre élément qu'on doit déjà retenir aussi de cette première étude, c'est l'importance de la dimension régionale et finalement pas seulement lyonnaise. Parce que même durant cette époque où il y a très peu d'expériences radiophoniques, on observe une mobilité territoriale très importante, et très vite on se rend compte que se limiter à Lyon ou aux communes périphériques n'est pas suffisant, qu'il y a une circulation beaucoup plus importante. Et même à Lyon, finalement, une grande partie des émissions sont faites dans les quartiers, dans les municipalités de la périphérie. Et donc, il faut ouvrir la focale. Alors, trois temps pour commencer cette précision. Au commencement était l'écologie. Deuxième partie, 78, élections législatives, un petit Big Bang qui fait long feu. Dernier élément, survivre et s'adapter dans un sentiment de lassitude. Ça, c'est la dernière partie. Je pense que j'arriverai absolument pas à parler de tout ça, mais c'est pas grave. Au moins, vous auriez pu avoir une idée de ce qui aurait été possible. Voilà. Au commencement était l'écologie, puisque exactement de la manière de ce qui se passe à Paris avec Brice Lalonde et le coup médiatique, hein, qui consiste à faire parler Radio Verte à la télévision. Là aussi, c'est assez intéressant sur l'histoire des médias, c'est-à-dire qu'on fait vivre un média à travers un autre. Hein, donc c'est voilà un coup médiatique. Hein. Eh bien, dans le paysage lyonnais, l'utilisation de la radio est, comme l'a dit Jean-François, liée à la mobilisation contre la centrale de Creys-Malville, et donc l'utilisation de radioactives. Qui est mentionné dans un reportage de FR3 Rhône-Alpes le 26 juin 1976. Donc on n'entend pas le son dans ce reportage, mais on découvre que le premier indicatif qui a été entendu, c'est la Java des bombes atomiques de Boris Vian. Voilà, donc on a un son, hein, mais encore un son indirect. Ces radios de lutte, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui sont des radios mobiles, à la fois pour échapper à la répression, et ça c'est un temps fort de la période, mais aussi parce qu'on va émettre là où on a besoin d'émettre. Il y a le modèle du Larzac, hein, qui est très prégnant, évidemment, à cette époque. Et donc, on va émettre autour hein, des manifestations, juste ponctuellement au moment des manifestations ou pour des événements particuliers, notamment les assises du nucléaire qui se tiennent à Morestel le 20 février 1977. Et là, Radioactive émet quelques jours. Et là aussi, à cette occasion, on a dans les archives de l'INA et de France Inter, quelques mots, quelques sons issus de Radioactive. Radioactive qui sera donc qui est lié en partie à Grenoble, hein, puisque le mouvement contre Creil-Maville est aussi bien enraciné dans l'Isère. Et on aura quelques émissions en 78-79 autour de Radioactive, mais ça reste très ponctuel. Cette matrice écologique, hein, elle va fonder la deuxième expérience que l'on peut retenir, hein, c'est bien évidemment celle de Radio Polyfem, autour notamment d'Alain Partansky, hein, qui a été l'un des candidats sur la première liste écologiste aux élections municipales de Lyon 77. Et donc, l'année suivante, il est partie prenante hein, du lancement de Radio Polyfem, dont atteste un article du quotidien Le Journal du 2 mars 1978, hein, dans un grand moment de souffle médiatique. Hein, c'est les élections législatives et il y a une frénésie hein, de création. Et donc, on a cette expérience. Sa dimension résolument écologiste, elle se donne déjà comme objectif de couvrir Lyon, mais aussi Bourgoin et Villefranche. Donc on a déjà cette idée hein, de rayonner bien au-delà du périmètre lyonnais et de s'enraciner. Alors en fait, l'expérience ne dure que, j'allais dire, que quelques jours, que quelques mois. Là, c'est extrêmement difficile de savoir finalement combien de fois Radio Polyfem a émis véritablement, hein, sans doute une poignée d'heures, hein, une poignée de journées, mais ça a été quand même important. On peut parler de coup d'épée dans l'eau, hein, puisque un article du Progrès du 5 juin 1978, à propos de la naissance de la Fédération nationale des radios libres non commerciales, donc ces tentatives de structuration locale, ne mentionne pas Polyfem dans les radios lyonnaises, ce qui peut sous-entendre que Polyfem n'existait plus trop. Bon, mais là, il faudra travailler. Et en fait, il faut attendre côté écologiste hein, le début des années 80 pour voir une nouvelle initiative, Radio Calade, donc qui est lancée en janvier 80, donc fin de période, très clairement à l'initiative du groupe écologiste Beaujolais, hein, qui parvient à émettre de manière régulière. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que on rentre vraiment avec Radio Calade dans une institutionnalisation. Hein, au départ, chaque quatrième vendredi du mois à 19h30, hein, une histoire donc qui est bien documentée par le témoignage oral de Patrick Gervais, mais aussi par ses archives hein, qui sont aussi très largement constituées, mais pas seulement, de coupures de presse. Donc on peut là suivre les choses. Il est très intéressant, et là aussi les archives sont passionnantes, de constater qu'à la différence de ses voisines lyonnaises et grenobloises, sur lesquelles je vais revenir, Calade, quoique elle est immédiatement identifiée par la police, hein, et donc on a dans les documents rassemblés par Patrick les rapports des RG qui disent voilà où ça émet, voilà la personne, etc. Mais elle n'est pas brouillée. C'est assez intéressant, alors que d'autres, au même moment, sont brouillés. Alors, sans doute, on est dans la fin, on est dans l'essoufflement hein, de la répression à la fin des années 80, mais on peut aussi penser que, au-delà de la capacité de résilience et d'adaptation dont font preuve les auteurs, les pionniers de Radio Calade, il s'agit d'une radio qui, finalement, n'est peut-être pas identifiée comme un danger politique. Elle est très solidement implantée, et donc on la laisse survivre en attendant que ça se passe. Voilà. Donc, matrice écologique. Deuxième point, 78, un petit Big Bang qui fait long feu, puisque, vous l'avez compris, hein, au printemps 78, on a vraiment un mouvement d'initiatives variées autour des radios pirates. Ce coup d'accélérateur s'explique donc par le contexte favorable. Il faut se souvenir hein, qu'en 77, la majorité présidentielle, donc le parti de Giscard et enfin, l'alliance de droite, a perdu les municipales. Et donc, tout le monde, évidemment, espère, bon, ça fait longtemps qu'on espère, mais que les législatives de 78 seront les bonnes. Et donc, on peut penser qu'il y a d'une part une poussée du côté des mouvements contestataires qui veulent utiliser la radio, sur le modèle de ce qui avait été fait à Paris en 77. Et puis, on peut penser que le gouvernement, voilà, attend de voir, hein, puisqu'il va devenir perdant. Hein, donc, il se dit peut-être qu'on va laisser. Vous savez que dans les mouvements de radio libre en 77-78, il y a aussi eu des membres des groupements de la majorité, le Parti républicain en particulier, hein, qui ont tenté des radios libres, qui contestaient à l'intérieur le monopole. Donc, je pense qu'il y a une fenêtre voilà, de tolérance qui fait qu'en 1978, on voit apparaître donc ces différentes initiatives. Donc j'ai parlé de Polyphène tout à l'heure, et on voit, la presse mentionne par exemple en mars 78 hein, que le candidat du front autogestionnaire dans la 12e circonscription de Lyon, Pantazian, fait sa campagne avec une radio libre. Donc on utilise vraiment ce vecteur politique dans un temps très court. C'est aussi, et c'est intéressant, parce que c'est aussi la date de naissance de Radio Canu-Guignol, ou Guignol-Canu, comme vous voulez, qui est intéressante parce que, paradoxalement, elle naît dans cette effervescence politique des élections législatives, alors que ses initiateurs s'inscrivent plutôt dans un mouvement autogestionnaire, libertaire, pas tellement porté sur les élections, et que, dès le départ, leur objectif est... Leur objectif est de s'appuyer et de relayer davantage la parole sociale, la parole des quartiers. Hein, et donc, leur mode de diffusion se fait à partir du centre de Lyon, de la Croix-Rousse, de la Duchère, de Vénissieux, de Villeurbanne. Donc, cette idée vraiment de faire des radios, des relais de la parole collective et de la parole associative, ce qui restera un temps fort. Ce climat favorable qu'on le retrouve aux échelles régionales, à Grenoble, en Savoie, Radio Alpes. On a plein d'expériences comme ça en 78 qui tentent de se faire entendre. On a aussi des formes de récupération politique, si je puis dire. C'est pas péjoratif ce que je veux dire là, mais voilà, et notamment la réunion du bureau de liaison des radios libres est organisée en juillet 78 à Villeurbanne. Et Ernu, le maire de Villeurbanne, soutient, s'aligne sur la position des radios libres non commerciales. Dernière fenêtre du printemps 78, qui est intéressante parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est Radio Joufflu. Parce qu'elle est également née en mars 78, donc au moment des élections, mais Radio Joufflu se place sur une dimension complètement différente, c'est-à-dire qu'elle se veut... Alors, je ne vais pas dire qu'elle se veut une radio commerciale, parce que ce serait sans doute excessif, mais elle ne se veut pas du tout une radio politique, pas du tout une radio d'information. Elle se veut finalement un espace de liberté, d'expression culturelle autour de ce mouvement, de la musique, etc., qui est sans doute extrêmement important. Elle est portée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Blanchemain, qui est un cadre commercial féru de musique, et qui va essayer d'inventer justement une forme un peu originale, et qui jouera ensuite un rôle important après 81 dans le développement des radios plutôt qu'on qualifiera de commerciales, mais on a déjà cette initiative. Alors, il n'a pas plus de chance que les autres, la politique est réprimée, le commercial aussi, et donc Radio Joufflu fera les frais des foudres de la répression, puisque comme le disait Jean-François, et là c'est intéressant, vous voyez, d'aller dans le grain fin de la chronologie, c'est à ça qu'on sert les historiens, c'est de comprendre qu'en fait cette loi de 78, vous voyez qu'une fois que le gouvernement a gagné, le gouvernement desserre l'étau, il gagne les élections, et donc à ce moment-là, hop, il remet un tour de vis, et il y a la fameuse loi Leca qui permet là cette fois de sanctionner beaucoup plus facilement les atteintes au monopole. Donc c'est un appareil législatif plus précis qui permet d'interpeller les gens et qui va être utilisé. Donc, tout de suite, dans les années 78-79, pour museler les différentes tentatives d'expression. Donc, c'était ce qui aurait pu faire l'objet de ma troisième partie, à survivre et s'adapter. Donc, simplement pour vous expliquer comment on a ponctuellement des tentatives d'émission. Donc, Joufflu, qui est saisi en septembre-octobre 78. L'arrestation de Frémaux pour Radio Canu. Donc, on a ça. Donc, ça dure quelques temps, et puis ça repart. Voilà. Mais c'est à chaque fois des choses extrêmement ponctuelles qui, quand même... alors avec aussi des tas d'exemples régionaux, mais j'ai pas le temps, avec des mouvements syndicalistes, il y a Radio CGT aussi qui émet un peu sur le modèle qu'on évoquait tout à l'heure, donc toujours ces petites initiatives ponctuelles. Et puis dans les années 80, La mue, on va dire, de Radio Canuléon, hein, donc sa transformation, son ouverture vers d'autres structures associatives, donc sur Radio Pipelette, Radio Lézard, dont les sources, en tout cas les sources que j'ai consultées, ne sont pas très claires. Hein, la presse parle parfois de radio d'origine étudiante, parfois on parle de radio écologiste, c'était peut-être les deux à la fois, je ne sais pas. Mais bon, on a des choses très, très ponctuelles qu'il faudra affiner. Radio Pipelette, on aura sans doute des renseignements dès à présent, voilà. Et puis, donc, le processus hein, qui va créer la mise en place de Radio Léon à la fin, donc qui rassemble Radio Canu. Et je voudrais juste citer pour finir dans un article de la presse, là aussi, de février 81, qui tire le bilan de 3 mois d'émissions régulières, puisque là aussi, comme pour Calade, la fin des années 80, la répression s'affaiblit. Hein. Pareil, on attend le résultat des élections. Et donc, les radios parviennent à exister. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet article de presse, hein, le journaliste écrit « Or, après 12 semaines de travail, d'absence inexpliquée, de brouillage et d'émissions trop souvent réutilisées au coup par coup, faute de disponibilité ou de coordination entre les militants, l'heure est au bilan, aux révisions et aux certains déchirements. » Militantisme rime-t-il avec amateurisme? Ce dernier est-il conciliable avec les exigences draconiennes d'une radio? Toujours est-il que Radio Léon se remet en question. Donc, il fait écho des tensions au sein de la radio, hein, mais qui sont intéressantes parce qu'elles sont finalement au cœur de notre propos. C'est-à-dire, c'est quoi les radios? C'est quoi les radios libres? Est-ce que c'est des mouvements politiques? Est-ce que c'est des lieux de l'expression? Est-ce que c'est des outils radiophoniques de professionnels? Et ça, c'est quelque chose qui se redéploie sur toute la durée de notre période, pas si courte que ça. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été trop long.
Merci Edouard pour cette présentation qui montre bien la richesse de toutes ces initiatives à Lyon et dans la région plus largement. Je donne tout de suite la parole à Adams Mezzamini. Adams qui est étudiant en master de journalisme à l'Université Lyon 2, qui fait partie du groupe de travail sur les radios libres et qui dans ce cadre est chargé de mener des entretiens avec des acteurs et actrices des radios de l'époque. Ces entretiens sont enregistrés. Il y a un podcast d'ailleurs, ce sera produit et monté en podcast. Et donc Adams vous propose un bilan d'étape de ces entretiens.
Alors, merci Marine. Moi, je vais essayer d'être quand même plus court que mes collègues. Alors oui, je n'ai pas été tout seul pour ces entretiens. J'ai rejoint le groupe après une proposition de stage. Alors quand le groupe s'est créé il y a un an et demi, il y a un premier listing qui a été fait par rapport à d'éventuelles radios, par rapport à leurs caractéristiques qui pouvaient être interrogées. Et c'est une liste qui voulait être évidemment enrichie au fil du temps. Et à ce jour, on a 8 radios sur 10 qui ont été interrogées. À chaque fois, ça a été un ou plusieurs acteurs de ces radios avec lesquels nous nous sommes entretenus. Pardon. Donc à ce jour, il y a eu le père Emmanuel Payen pour Radio Fourvière, Jacques Boulu et Françoise Mermoux pour Radio Julie, Patrick Gervais pour Radio Polyphème Radio Calade, Simone Daré, puis un autre entretien avec Thierry Frémaux pour Radio Canu, Bernard Dautan pour Radio Charpentonquin, Jean-Pierre Derroir pour Radio Val-de-Reims, Gilles Pomateau, Christian Ferbeuf et Yves Bonnet, que je salue, qui est présent pour Sol FM, et Robert Lapassade pour Radio Bellevue. Alors pourquoi créer une radio? Il y a cette forte dimension d'engagement qui est ressortie. C'était une forme d'engagement, de lutte politique, la création d'une radio. Comment on pouvait briser le monopole? Simplement en créant une radio et en émettant. Il faut occuper la bande. Françoise Mermoux disait par exemple que briser le monopole des radios d'État, c'était redonner la parole aux habitants, là où ils habitent. Donc c'était de la logique. Pour Patrick Gervais, l'objectif c'était que la modulation de fréquence soit occupée par autre chose que les radios d'État, et que ça se sache, et que ça dérange et qu'on en parle, disait-il. Le monopole de l'ORTF, cela faisait, quand il portait ce nom, cela faisait partie des revendications dans l'histoire de Radio Canu. Pour Simone Daré, je la cite également, c'était l'instrument du pouvoir qui bloquait, y compris une expression culturelle montante, que ce soit sur le rock, la chanson française. On avait une actualité qui était monocorde. Fin de citation. Donc, on veut clairement occuper la bande. Après ces premières discussions, les premiers échanges, il faut aussi acheter du matériel pour ces radios quand on veut créer une radio, fabriquer les émetteurs. Ça s'est fait souvent en Italie. On allait rechercher ces radios, on allait chercher les émetteurs en Italie, notamment des composants, puisque les Italiens avaient déjà des radios pirates et qu'ils utilisaient d'autres émetteurs que ici en France. Et ça va amener, ça a été dit aussi précédemment par Jean-François Edouard, aux premières émissions, dans tous les sens du terme, au cours des années 77-78 avec Radio Polyphème et Radio Canu. Et donc là, ça fait déjà une petite demi-heure que vous nous entendez parler, mais peut-être que vous avez envie d'écouter quelque chose, puisqu'on parle de radio. Donc on va lancer un son de Radio Polyphème et de Patrick Gervais qui nous parle des premières émissions, du matériel et comment ça se passait sur le terrain.
On a commencé à faire les premières émissions de Radio Polyphème. Le nom a été trouvé par Alain Partinsky. On faisait des émissions intellectuelles, mais aussi des émissions événementielles. Donc, on allait là où il y avait des luttes, la grève des profs parce qu'on voulait supprimer une classe, je ne sais rien, enfin, les routiers, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. On posait des questions et puis après, on allait diffuser. Et là, c'était sac à dos, une batterie, un étau pour fixer l'antenne, trois brins qu'on avait fabriqués, des câbles, un lecteur de cassette. On diffusait à partir de lecteur de cassette. Et là, on montait sur les toits. Donc, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui est la partie émission, les enregistrements, les questions, etc. C'est pas moi qui les faisais. Donc, on était trois avec des talkie-walkie parce que déjà la police tournait et... on montait sur les toits à la Croix-Rousse, on montait depuis Saint-Just, Sainte-Foy, là, j'ai émis plusieurs fois là-bas. On voyait tout Lyon, alors là, ça passait bien. Hein. À la Croix-Rousse aussi, je me rappelle même une fois où j'étais sur un toit en train de tenir l'antenne dans l'étau. En bas, il y avait le gars qui mettait les cassettes. Et puis, il y a une mémé qui était à sa fenêtre et qui me regardait, elle avait l'air de se dire, mais il en met du temps à régler son antenne télé, quoi. Et toute l'émission, elle m'a regardé. Quand je suis parti, je lui ai fait un coucou. Enfin, voilà, le genre de choses. On n'a jamais eu de problème pour se faire prendre, quoi. À partir de 78, on s'est encore organisé différemment, là. C'est-à-dire qu'on a aménagé un... 77-78, on a aménagé un... une camionnette pour pouvoir faire de la radio. On avait une camionnette, c'était un Ford Transit. Et là, on faisait de la radio, c'est-à-dire on se déplaçait, on pouvait, au lieu de préenregistrer et de diffuser, là, on faisait du direct. C'est-à-dire qu'on allait là où il y avait des événements, là où il se passait des choses, et on émettait depuis cette camionnette. Alors, c'était bien, parce qu'on pouvait aller sur place, enregistrer sur les lieux où il y avait des choses qui se passaient. Et là, la parole, elle était directe des intervenants, enfin des acteurs des événements. Mais aussi, on pouvait se déplacer en émettant, ce qui fait qu'on n'a jamais été coincé par la police qui nous cherchait, quoi, parce qu'on roulait.
Donc voilà, cet extrait qu'on vient d'entendre, vous pourrez le retrouver très très prochainement dans le podcast que j'ai pu réaliser avec l'aide de Marc Guius qui est là, que je salue, que je remercie, et de Clara Grézo également, qui est présente. Merci à eux. Un deuxième gros point, au-delà du monopole que je voulais évoquer, c'est que tout simplement la radio, ça va être aussi pour certains un excellent outil d'expression. On a la radio, on a cet outil, pourquoi pas se l'approprier de faire ce qu'on a envie de faire, clairement. Ça va être quoi ? Je vais les citer, même si pour certaines, elles seront davantage évoquées dans le deuxième atelier, puisqu'il y en a qui sont créées à partir de 80 et 82. On veut rendre compte de ce qui se passe dans le quartier, ce sera Radio Charpennes-Tonquin, Villeurbanne. Est-ce qu'on veut mettre en avant les territoires, faire une radio dans le milieu rural ? Ce sera le cas de Radio Val de Reims, ça en pleut plus. On veut faire de la musique ? Ce sera le cas de Radio Bellevue ou de Sol FM. Sol FM, par exemple, qui, quand j'y repense, c'était une anecdote plutôt sympa, fraîche, j'ai envie de dire. C'est parti d'une discussion entre amis. Je pense que Yves Bonnet ne me contredira pas, vu qu'il est présent. C'est parti d'une histoire entre amis et de se dire on a envie de partager notre passion et on n'a qu'à se lancer, quoi. Et c'est avec cette dernière citation que je vais finir. Yves Bonnet, qui est l'un des fondateurs qu'on a eu en entretien avec Sol FM, on avait envie de faire ce qu'on entendait par ailleurs, mais le faire nous, fabriquer une radio nous-mêmes de A à Z avec nos disques, nos invités, nos moyens financiers, peu importants. Les contacts avec les mairies, toucher le plus de gens possible pour pouvoir partager notre passion. Donc voilà, c'est une lutte politique, mais pas que. C'est ce que je voulais mentionner avec ce deuxième point, puisque tout le monde ne boycottait pas forcément le service public dans les années 70. Certains écoutaient par exemple France Inter. Et je vais terminer avec un dernier point. Je voulais dire que ça avait été une expérience très enrichissante d'un point de vue personnel d'avoir pu mener cet entretien. Bah, je n'étais pas tout seul, comme je l'ai dit au départ de mon intervention. Et que je voulais remercier toutes les personnes qui ont accepté et qui ont participé à ces entretiens. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Adams, pour ce bilan de cette collecte de la mémoire orale. Et merci d'avoir diffusé un extrait d'un des entretiens que tu as réalisé donc avec Patrick Gervais. C'est une transition toute trouvée pour le deuxième temps de cet atelier, puisque Patrick Gervais participe aussi donc, à la table ronde qui va suivre. Et pour laisser nos intervenants, laisser la place aux invités, on va entendre, pendant le changement de place au micro, une archive de Radio Polyfem, donc qui date de 1978. Donc là, c'est vraiment une archive sonore d'époque.
Bonsoir, ici Radio Polyfem sur 105 MHz, la seule radio encore libre de Lyon. Votre ville, c'est quoi? C'est le progrès, c'est Europe 1, Monte Carlo, les seules radios qu'on vous laisse écouter? C'est votre voix, ça? Ça m'étonnerait. Et pourtant, Lyon, ça pourrait être quoi? C'était depuis plusieurs mois Radio Joufflu, qui ne peut plus parler. C'était Radio Canu, dont on n'entend plus parler. Où sont-ils? C'est encore Radio Polyfem, pourvu que c'est dur. Lyon, c'est quoi? Lyon, c'est la répression. La répression des manifs.
Tu te rappelles à Malville, par exemple, l'année dernière? Des grenades offensives, ils ont utilisé. Un mort.
La répression de la vie dans la rue.
On n'a même plus le droit de jouer de la guitare dans les rues piétonnes. Mais alors par contre, quand c'est le cross du progrès, alors là, il y a du monde. Oh là là.
La répression des radios libres.
Ouais, les copains de Radio Joufflu, on en parlait justement tout à l'heure. Une bonne musique pourtant. Ils se sont fait arrêter par les flics. La DST. Plus de musique. Il ne reste plus que la musique militaire, tu parles.
Donc, on vient d'entendre une archive de Radio Polyfem de 1978. Et alors, j'avais reconnu la voix de Patrick Gervais. Mais il y avait également la voix de Roger Masson. Donc, en fait, les deux voix.
Ah non ? C'était Jacques Boulut.
Ah, d'accord. Il est là.
Ouais. Ah, il est là. D'accord.
Chemise, la carrette.
Très bien. Bon, je vais présenter les invités, les intervenants et l'intervenante qui viennent de nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, autour de la table, Jida Tazdaïd. Bonjour.
Bonjour.
Vous
je
êtes.
Sais pas si
vous prenez celui-là. Ouais. Avec ton casque. Donc vous êtes une femme politique, ancienne députée européenne et ancienne adjointe à la mairie de Lyon, militante des droits de l'homme et des minorités. Vous avez été, selon vos propres mots, une petite main des radios libres à Lyon durant la période où elles étaient clandestines, où elles étaient pirates. Et vous avez participé notamment à Radio Léon et Radio Pipelette. Patrick Gervais, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes donc l'un des fondateurs de Radio Polyfem, dont on a déjà pas mal parlé, puis de Radio Calade, qui a été créée à Villefranche, sur Saône, qui existe encore, dont vous êtes l'administrateur et qui sonorise et enregistre aujourd'hui l'événement. Et enfin, Roger Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait partie des premiers militants écologistes des années 1970. Vous avez choisi de vous engager au moment de la campagne présidentielle de René Dumont en 1974. Vous avez été journaliste militant pour la presse écrite alternative et indépendante comme La Gueule Ouverte. Et vous avez été président du mouvement écologique Rhône-Alpes. Alors, très brièvement, j'ai envie de poser une question d'abord à Jida Tazdaïd et Patrick Gervais. Quel était votre rapport à la radio avant de commencer à en faire? Est-ce que vous écoutiez la radio? Et si oui, quelle station? Jida Tazdaïd?
Il faut mettre ça
comme vous voulez. Pas obligé.
Bonjour. D'abord, je voulais dire que j'étais étonnée d'être invitée à cette table ronde parce que, en effet, je ne suis pas fondatrice de Radio Léon, mais de Radio Pipelette, qui a duré, qui a eu une vie d'une année environ, 79-80. Mais j'étais contente qu'on se rappelle que dans les combats structurants de notre société, les femmes étaient militantes aussi et qu'elles y ont participé à faire changer les choses. Et et les lois. Donc j'étais quand même heureuse de répondre favorablement à votre invitation. Et au lendemain du 8 mars, ça tombe bien de se rappeler que l'histoire efface souvent les femmes. Et je suis très heureuse de représenter donc ce combat pour la liberté d'expression que nous avons mené, auquel j'avais participé en tant que jeune. On avait la vingtaine, hein, il faut se rappeler, se remettre dans le contexte. Hein, on était des jeunes gaillards de Lyon. Et moi, j'étais déjà investie dans les combats sur les discriminations et notamment sur les crimes racistes dont notre ville était, était championne macabrement à cette époque-là. Et puis, on était sensible à la question des médias puisque dans nos premiers... Première communication avec les médias, je vois que la Frose partage cette mémoire, je pense. On était confinés dans les rubriques faits divers, parce qu'on était minoritaire, parce qu'on était noir, parce qu'on était arabe, parce qu'on était jeune immigré, parce qu'on était des banlieues, parce qu'on était une génération qui était oubliée, même on se demandait... où est-ce que nous sommes nés? Non, nous sommes bien nés ici, pour la plupart. Et le fait d'être confiné comme ça dans une rubrique, on comprenait bien qu'il y avait un genre d'étouffement social, culturel. Et donc moi, j'avais une trajectoire personnelle aussi, pas seulement collective. Je tiens à le rappeler parce qu'on est souvent mis dans des cases... racisme, antiracisme, machin. Non, on s'occupe aussi de l'intérêt général et de l'intérêt du plus grand nombre quand on milite. On ne milite pas toujours de manière corporatiste ou communautaire, mais de manière plus générale. Et je tenais aussi à le préciser. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir, pour montrer que les combats comme ça structurants intéressent et concernent toute la société, quelles que soient les spécificités culturelles, sociales ou les difficultés. Voilà, donc dans cette mouvance de lutte, voilà, j'ai croisé Hervé Paris, qui est un des fondateurs de Radio Léon, avec Jean-Michel. J'espère que dans la suite de vos travaux, vous arriverez à les intégrer parce qu'ils sont, de mon avis, hein, sur cette séquence historique, ils sont fondamentaux. Mais c'est vrai que cette séquence radio-pirate, clandestine, difficile, parce que vous disiez, Monsieur Lynch disait tout à l'heure que 80-81, la répression commence à diminuer, mais nous, années 80, c'est là où on a été, on a reçu le plus d'interventions policières où... ça m'a beaucoup marqué parce que moi j'étais étrangère et être étrangère et s'attaquer au monopole d'État, c'est atteinte à la sûreté de l'État et je pouvais être expulsée loin de cette planète européenne et française. Et donc je me souviens bien des descentes policières qui nous remettaient les compteurs à zéro puisqu'ils prenaient les émetteurs, le matériel, etc. Et puis on arrêtait quelques-uns. Nous avions la chance, et là je ne sais pas si c'est l'historien des médias qui a dit ça, mais c'est vrai qu'il y avait dans cette séquence 79-80, il y avait une tolérance des élus locaux et notamment, enfin de certains, oui, tu as raison de secouer la tête, notamment je me souviens de Cyrus Kla qui était le maire de Saint-Fons. Oui, c'était notre soutien principal et celui qui nous sauvait des commissariats et des arrestations et de la suite. Donc, il y a quand même quelques politiques qui nous ont soutenus. Et c'était quand même le lien avec le programme de Mitterrand qui fait que la libération des ondes était inscrite dans le programme de 81 à cette époque. Et ça nous avait encouragés aussi à intensifier la lutte pour cette liberté des ondes et contre le monopole d'État. Donc, on était usagers et militants en même temps. Enfin, moi, j'étais militante et usagère dans le sens où, quand je dis petite main, voilà, juridiquement, administrativement, le porte-parole. Bien que j'ai participé à une réunion et où je représentais Radio Léon de la Fédération nationale des radios pirates, avec un slash libre, puisqu'il y en avait qui étaient voilà, tolérés dans leur région et d'autres non. Mais on faisait partie, Radio Léon, quand même, de mémoire, des radios qui arrivaient à émettre plus que d'autres, en tant que radio pirate, en tous les cas. C'est-à-dire, radio pirate, bon, dans le témoignage là, qu'on a entendu oralement là, de Radio Polymède
Polyfem,
pardon, c'est là.
Oui.
Oui, c'est vrai. On entend bien dire que c'est quand même pas un jeu d'enfant. il fallait quand même escalader des toits. C'est pas pour rien qu'on était à la Croix-Rousse ou vers Fourvière, parce qu'il fallait être en hauteur pour émettre le plus largement. Même si le plus largement, ça ne veut pas dire le plus grand nombre. Ça restait une audience confidentielle. C'est plutôt du réseautage radiophonique, on va dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voulait relayer nos combats et nos luttes et on voulait porter une parole collective. Donc c'est vrai que nous, on était quand même une radio assez politique dans le sens où on donnait le micro aux Arméniens qui étaient en lutte, aux jeunes immigrés, enfin toutes les catégories sociales et politiques qui avaient besoin de s'exprimer. Et donc, moi, j'étais plutôt sur le terrain à capter la parole lors d'une rafle de migrants Place du Pont ou devant le commissariat Vauban, qui était le commissariat réputé qui torturait les gens arrêtés. Ça date de 40 ans seulement, hein. C'était pas le siècle dernier. Et donc... Ah, mais merde. Donc, c'était bien le siècle dernier. C'est plus conforme comme ça au niveau du sens. En tous les cas, voilà, c'était... on allait là où la parole n'était pas portée, ou là où, où on invisibilisait les problèmes. Puisqu'il faut rappeler, quand on dit on lutte contre le monopole d'État, c'est le monopole d'État n'est pas passif. Le monopole d'État était actif. C'est-à-dire, c'était la censure, c'était... Enfin, je pense qu'il y a certains de vous qui avaient traversé des rédactions et vous en savez quelques... Enfin, les rédactions plus traditionnelles, de médias plus traditionnels, et vous en savez sûrement quelque chose, mais il y avait une censure. Donc, c'est vrai qu'il y a la patte de l'État et son contrôle, mais il y avait aussi, comment dire, les mentalités pour nous qu'il fallait changer. Je veux dire, quand un journaliste, automatiquement, la rédaction dit « Ah, mais non, ça c'est les Vénitieux, donc on va mettre dans les faits divers », c'est un problème de... Voilà, culturel.
On voit bien, merci beaucoup, que vous avez commencé à faire de la radio comme un engagement, justement, pour visibiliser vos combats, vos luttes, pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas.
Juste c'est peut-être aussi... finir sur Radio Pipelette.
Oui, bien sûr. Après, j'allais revenir, okay. Juste faire circuler un peu la parole, on reviendra à Radio Pipelette. Revenir, donc on a déjà entendu un peu Patrick Gervais, mais sur du coup la dimension technique, qu'on va peut-être pas y revenir là-dessus. Mais vous aussi, Patrick Gervais, c'est votre engagement militant et écologiste en particulier, écologique, qui vous a poussé à faire de la radio, à créer Radio Polyfem. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point?
Moi, en fait, j'habitais à La Duchère. À La Duchère, j'ai commencé... parce que bon, il faut voir, c'était la chape de plomb. Quand on dit que c'était la chape de plomb, c'était vraiment la chape de plomb. La France, à cette époque-là, il n'y avait rien, quoi. Nous, on avait eu la chance d'avoir un petit local et j'ai commencé à jouer, à rencontrer des potes et j'ai appris la batterie et j'étais batteur dans un orchestre. Voilà, on faisait des soirées. Et la musique que ces gens qui étaient plus âgés que moi me proposaient de faire, c'était des morceaux de musique que j'avais jamais entendus de ma vie. Comme on disait en début, c'était que de l'anglo-saxon. Alors là, le batteur, il servait à quelque chose. Hein. C'était pas le batteur de nos joyeux rock'n'rollers français de l'époque. Cette musique, moi, j'ai dit, mais c'est incroyable, ça vient d'où, etc. Après, je suis tombé plus tard sur Radio Caroline, etc. Et je me suis aperçu qu'en tant que musique, il n'y avait pas que Claude François, Sheila, Adamo, quoi, même si j'ai rien contre eux. Mais enfin bon, il y avait autre chose. Et puis donc, à La Duchère, c'est là que j'ai eu mon premier transistor que j'avais dérobé quelque part. Et je suis tombé sur les programmes de France Inter, plutôt la nuit, qui étaient des programmes où il y avait du jazz, il y avait une autre tonalité que ce que l'on pouvait entendre la journée. Et puis surtout, le matin, vers les 5-6 heures, je suis tombé amoureux de la fille qui faisait la de la voix de la fille qui faisait la météo marine. Par la radio, elle m'amenait aux Açores, dans les îles Kerguelen, des vents de force 3. Moi, j'avais jamais vu la mer à l'époque. Là, j'ai dit, la radio, c'est magique, il faut que je fasse ça, il faut que je raconte des histoires. Puis ça m'ouvrait, ça me faisait rêver. J'ai dit, mais on voyage comme ça, juste parce qu'elle dit qu'il y a un vent de force 4, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Voilà, et alors là, la radio ne m'a plus jamais quitté. J'ai toujours eu une radio avec moi. Alors ensuite, ben voilà, dans les années de l'après 68, les années 73 et tout, j'ai participé à la lutte contre la centrale nucléaire de Malville, mais pas que. L'Arzac, on a tout fait, ou presque, quoi. On a installé un baby-foot en 73, je crois, pour la Coupe du Monde qui se passait en Argentine. On jouait au foot pendant habillé en argentin et en français. Et pendant ce temps-là, on avait... un des créateurs de la radio, Bernard Dumonté, qui avait une tronçonneuse et qui faisait comme ça vers les passants. Enfin voilà, quoi. Donc il n'y avait pas que le nucléaire, loin de là. On était toujours des militants. C'était un peu de la tranche libertaire anarch, tout ça. Et les événements de Malville auxquels j'ai participé, avec le mouvement écologique Rhône-Alpes qu'on a créé à cette occasion, ce que j'en entendais encore à la radio, c'était évidemment pas ce que j'avais vécu. Voilà, on était tous des sauvages, armés jusqu'aux dents. La plus grosse arme qu'on avait, c'était un casque pour se protéger, enfin des choses comme ça. Alors qu'en face, ils balançaient des grenades, comme je le disais tout à l'heure, des grenades offensives qui ont tué des gens ou estropié des gens. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Donc ce mouvement écologique Rhône-Alpes a créé une agence de presse et une agence de services écologiques Rhône-Alpes. On avait une Roneo, on avait une Offset. On avait aussi de quoi faire de la sérigraphie. Et en fait, on s'est mis à éditer un journal que l'on destinait à tous les groupes écolos. On envoyait ça gratuitement. On ramassait des infos qu'ils nous envoyaient et on les faisait circuler. Et en fait, on s'est aperçu, vers les années 75, qu'on se parlait, entre nous. On parlait à nos potes, à ceux qui pensaient comme nous. Et on a dit, c'est nul. C'est lors d'un voyage avec le groupe écologique Beaujolais, un voyage épique de 5 jours à Milan, dans les locaux du Parti radical de Marco Pallina, que j'ai découvert la première, une porte avec une vitre, une lampe rouge, une lampe verte, et des gens qui parlaient, etc. Et tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est une radio. Et c'est là qu'on a dit, on va faire ça, on va fabriquer ces émetteurs. On a été chercher les pièces qu'il fallait. Et on les a donnés aux chercheurs du CNRS à la Doua. Chercheurs du CNRS, c'est donc les chercheurs payés par l'État. Hein, et ils nous ont fabriqué les premiers émetteurs pirates, quoi, avec l'argent et payés par l'État pour faire cela. Puis, après ces émetteurs, on les a fait circuler. Ça a donné naissance à plusieurs radios. Radio Jacasse à Villefontaine, Radio Julie à Bron, Radio Grésivaudan en Savoie, et puis voilà, d'autres radios comme ça.
Et Roger Masson, vous étiez, je crois, du voyage, ce fameux voyage en Italie, yes. Où vous avez découvert cette radio qui vous a donné envie. Donc vous n'avez pas vraiment fait de la radio, Roger Masson, mais vous avez suivi de près et vous avez un peu participé quand même, je crois, à la dimension technique. Vous avez peut-être été chercher aussi des composants en Italie. Et en tout cas, dans vos articles de presse écrite, vous avez relayé ces activités, notamment donc, de Radio Polyfem. Vous parliez de ces radios pirates.
C'est ça. Oui, ce qu'il faut dire, enfin, par rapport à tout ce qui a été dit, évidemment, auquel je souscris, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après 68, il y a eu une espèce de période de latence où beaucoup de gens de notre âge, enfin, les gens qui avaient en gros une vingtaine d'années, un peu moins ou un peu plus à l'époque, on s'est trouvé face à une situation générale de la société qui ne proposait rien qui nous intéressait. Donc, on s'est mis à chercher des pistes dans différents domaines. Et puis on s'est trouvé aussi à une représentation de l'État qui, par exemple, a développé, suite à la crise du pétrole en 1974, le programme électronucléaire. Et là, des scientifiques, dont le Centre d'études nucléaires de Grenoble et ceux de l'Institut de physique nucléaire de Lyon, dont Alain Partens, qui était directeur de recherche au CNRS, ce sont des gens qui sont... On a commencé à parler d'eux parce que, justement, ils se révoltaient et ils avaient une aura qui était celle de scientifiques. Et ils nous ont invités, pas seulement eux, mais enfin, ils nous ont invités à marcher en dehors des clous, à l'époque. Et donc, à essayer de trouver mouvements sociaux ou des organisations, de recourir à des technologies, de réfléchir sur l'avenir. Alors, il y a eu toute une démarche avec de la presse écrite, en effet, et les radios, puisqu'on commençait à s'intéresser à ça. Alors, le fait que le milieu scientifique de l'époque se soit investi, ils ont amené leurs compétences. Et donc, pour pouvoir faire les premières radios, en effet, on est allé chercher chez les Italiens des pièces détachées pour fabriquer des micro-émetteurs. Ce que Patrick n'a pas précisé, c'est que, bon, quand même, à l'époque, les émetteurs, c'était des espèces de monstres, c'était des grosses boîtes, quoi. C'était un amplifi des années 70. C'était ça, un émetteur radio. Ce qu'on a sorti, c'était des trucs, c'était une petite boîte d'allumettes. Donc ça, déjà pour la répression, comme dirait Gida, c'était pas facile à trouver parce que bon, ça se planquait n'importe où. Je crois me souvenir qu'un mec qui est pas loin de moi, là, un peu sur ma gauche, il le planquait sous l'aile de sa camionnette. Donc, pour aller le chercher, c'était bien. Quand il n'était pas en route, il était introuvable. Et donc voilà. Alors la presse écrite, bah, évidemment, il y a eu une forte presse écolo. Mais la presse écolo, elle était elle-même structurée, elle avait différentes tendances. Donc ça allait, comme vous l'avez très bien dit, messieurs Jean-François et son collègue, il y avait une multitude de tendances, justement parce que toute la couche de gens dont on faisait partie, on ne pensait pas tous la même chose. Et surtout, on ne voulait pas tous penser pareil. Donc on était très ouverts, on s'intéressait à ce que les autres racontaient, y compris ceux qui ne pensaient pas comme nous. On aimait le débat, comme les étudiants allemands, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de démontrer qu'on détenait la vérité, ben, on disait ben, « Ah ouais, mais toi, tu penses ça, c'est pas mal. Bon, moi, je pense pas la même chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et c'était cette dynamique. Cette dynamique, elle a donc amené à avoir une presse assez riche. Peut-être que les archives... Je pense d'un coup que moi, j'ai presque l'exhaustivité chez moi de la presse écolo des années 70. Il faudrait peut-être que je m'en débarrasse. Parce que les souris, ils l'aiment beaucoup. Et donc, je crois que ce qu'il faut, pour vous, pour les plus jeunes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, il y avait une vraie rupture sociale à l'époque. Mais c'est pas seulement... C'est 68 qui l'avait généré, je pense. Mais c'était pas forcément les idées de 68 qui étaient quand même encore dominées par le marxisme et disons, une certaine rationalité de l'organisation. Et là, comme vous l'avez dit, monsieur, il y a eu l'émergence assez forte d'idées libertaires, quand même, qui pensaient qu'il fallait se méfier de tout ce qui était trop structurant. Et donc, s'ouvrir sur... en prenant la parole et en la donnant. Enfin, c'était ça aussi.
Oui, prendre la parole et effectivement la donner à ceux qu'on n'entend pas. Et Gida Tazdaïd, par rapport à Radio Pipelette, je vous ai interrompu tout à l'heure. Mais...
qui est une radio pirate, volontaire, le projet, c'était quand même porter le droit des femmes et de donner la parole aux femmes.
Une radio féministe.
Féministe, absolument. Et surtout parce qu'on remarquait que dans les équipes de radio pirate, il y avait que des garçons.
Donc, pas chez nous.
Pas chez vous, non, peut-être. Non. Mais chez nous, c'était quand même une majorité de garçons. En tous les cas, on avait besoin d'une parole structurée vers les femmes, en tous les cas, pour donner de la voix aux femmes qui militaient sur leurs droits. Et donc, ça a duré une année. Bon, c'est les mêmes. C'est vrai que les copains de Radio Léon nous ont aidés au niveau matos, etc. Mais il fallait quand même escalader, attacher le matériel, faire de la captation, faire du montage, le diffuser, etc. Hein,
oui, mais... au niveau technique, justement, tout ce qui est montage, captation, enregistrement, vous avez tout appris en
sur le tas. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas une radioteuse, et d'ailleurs, je ne le suis pas devenue, puisque c'est vrai que maintenant qu'on a libéré le micro, les gens se battent pour le micro, mais ont peut-être oublié ceux qui ont libéré ce micro. Et je crois que c'est pour ça aussi que votre travail là est important, parce que je ne comprends pas pourquoi les grandes radios ne se sont pas saisies de ce quarantenaire, par exemple, pour dire c'est quand même voilà, il y a une histoire et c'est quand même important dans notre pays qu'il y a des moments de résistance qu'il ne faut pas oublier. Et sur la liberté d'expression, c'est fondamental. Donc, pour la radio Pipelette, c'est pareil. Hein. On a été structurellement aidés par Radio Léon, mais c'est parce qu'on militait déjà à Radio Léon qu'on a pensé que c'était bien de faire spécifiquement donner le micro à la parole des femmes à l'époque déjà.
Et alors Patrick Gervais, dans l'archive dans l'entretien qu'on entendait tout à l'heure, disait qu'ils n'avaient pas eu Radio Polyfem, Radio Calette, vous n'avez pas eu de problème avec de brouillage ou avec les autorités, avec la police. En revanche, vous, Gida Stanley, oui. Vous avez des souvenirs
Moi, j'ai dû militer à Radio Léon environ peut-être un an et demi, deux ans, c'est-à-dire à cheval sur 79 et 81. Et sur cette période, moi, en tous les cas, moi, puisqu'on n'était pas permanent, vous l'avez compris, hein, un jour on était là, un jour on changeait de lieu. En tous les cas, on était souvent au 44 rue Saint-Georges, hein, c'est un lieu associatif qui existe encore. Je crois qu'il est toujours loué aux associations alternatives, hein, tout ça. Et on était souvent là-bas et... Là, on a eu au moins 4 interventions, mais quand on appelle des interventions, c'est des interventions, quoi. ça fait peur, hein. C'est vraiment la grosse... c'est quand même... c'est quand vous voyez une brigade de CRS, voilà, sur un petit local comme ça, et un petit groupe de 5 personnes, et on avait un commando de CRS qui faisait une descente, qui nous attachait, qui allait chercher le matériel. Enfin bon, c'était un gros... Et moi, j'ai été sauvée au moins 2 fois par mes copains qui ont su me protéger de l'expulsion pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais je me souviens au moins de ces 3 ou 4 interventions sur cette séquence-là.
De Radio Léon.
De Radio Léon, voilà. Radio Pipelette, on a été brouillés. Ils se demandaient ce que c'était, quand même. Ce petit groupe de 4-5 femmes qui bougeaient, qui montaient. On était suivis, probablement. En tous les cas, on était brouillés, oui.
D'accord. Oui. Et Patrick Gervais, donc vous étiez plutôt, vous parliez pas tellement au micro, enfin vous n'étiez pas, je crois, du côté des émissions, enfin vous étiez sur la diffusion, donc tout ce qui était plutôt antenne, émetteur, etc. Mais qu'est-ce que vous dites ? On a compris que vous aussi vous vouliez donner la parole donc à ceux qu'on n'entendait pas. Qu'est-ce qu'on pouvait entendre sur Radio Polyfem ? Et quel était c'était aléatoire encore une fois la diffusion, mais est-ce que vous pouvez un peu évaluer les...
En fait, les émetteurs, ils étaient tout petits au niveau dimension, mais ils étaient aussi tout petits au niveau de leur longueur, de leur distance de diffusion. En fait, nous, on émettait, c'était surtout pour soutenir des luttes qui se passaient dans le coin, j'en reparlerai, mais on émettait surtout, et c'est pour ça que quand j'ai donné les archives, c'est quasiment CAFI de revues de presse. On émettait surtout pour que ça sache qu'on émettait, voilà, que ça monte jusqu'aux oreilles du gouvernement, que ça donne envie à d'autres personnes de faire de la radio, savoir qu'il y avait des gens dans des angora qui s'organisaient, qui étaient capables de faire des émetteurs, qui étaient capables de produire des émissions, se servir de matériel et qu'on voulait casser ce monopole. Donc c'était surtout ça. Alors effectivement, pour l'équipe était divisée en 2, parce qu'on avait le droit d'avoir un lecteur de cassette, se promener avec un micro, de prendre rendez-vous avec des gens, d'aller dans une entreprise, dans une usine, je ne sais, pour poser des questions aux gens, parce que pourquoi ils étaient en grève, pourquoi ils ne sont pas contents, etc. Tout ça, on a le droit. On a le droit de le monter pour en faire quelque chose, on a le droit. Ce qu'on n'avait pas le droit, c'était d'émettre. C'était de diffuser. Donc on avait groupe de personnes, il y avait énormément de personnes du reste, parce que chacun dans son coin avait des gens intéressants, ou des gens qui avaient des idées, ou des gens qui menaient une lutte, et donc après on faisait un montage. Alors le montage, il faut savoir qu'à l'époque, le couper-coller, que tout le monde copiait, couper-coller, que tout le monde connaît maintenant, c'était bien. Nous, c'était avec des kilomètres de bandes, il fallait couper, et on marchait, on collait avec du scotch, donc, et plus de bandes par terre que ce qu'on diffusait. Oui, mais ça, ils l'ont gardé sur Internet et donc sur les ordinateurs. Donc, ils faisaient ça et nous, on allait, on diffusait, quoi, voilà, tranquillement. Des fois, je suis sûr, j'ai une émission à Moiré au-dessus de chez mes parents parce que c'est bien en hauteur. Là, on avait un copain en bas avec le Tokiwoki. Il était à quoi ? À 2 km. Lui, il nous écoutait, il nous entendait pas déjà émettre. Donc, on a émis pour les mouettes, quoi, enfin, les mouettes, les oiseaux.
Les corbeaux.
Mais on avait un article dans la presse, on avait distribué dans toute la région où j'habitais des tracts. Voilà, ça savait, on voulait faire monter la mayonnaise, faire monter la sauce, jusqu'à ce que ça craque en 80.
Et justement, au moment donc, de la dérogation sur le monopole d'État de la radiodiffusion en 80, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est très différent pour vous, Gida, et pour vous, Patrick Gervais. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, Gida, pour vous
Dans mon souvenir, hein, parce que chacun a son bout d'histoire, mais c'est vrai que des militants comme moi qui étions aussi investis ailleurs dans des combats structurés, d'abord, il n'y avait pas que la radio. On avait, par exemple, sollicité les universitaires de Lyon 2 pour monter une formation sur les médias et les jeunes immigrés, en tous les cas, l'image que les médias se faisaient de nos luttes dans les quartiers, etc. On n'était pas bêtes, même si on n'avait que 20, 22 ans.
Non, on n'était pas bêtes.
On n'était pas complètement bêtes.
Je confirme.
Merci. Et puis, aussi, par exemple, à l'échelle de l'Europe, je ne me suis pas intéressée à l'Europe que quand je suis devenue députée européenne. J'avais fait une formation au Conseil de l'Europe qu'on avait un peu sensibilisée sur les médias et les minorités. Dans notre esprit, c'était global. Hein, et mon engagement perso sur les radios libres faisait partie de cette réflexion que si on voulait être entendu, il fallait qu'on puisse nous entendre. En tous les cas, il fallait des véhicules. Voilà. Pour la fin de Radio Léon, en quelque sorte, on va dire ça, hein, quand les radios pirates sont devenues, en théorie, radio libre, je dis en théorie parce qu'après, vous rappellerez peut-être les différentes mises en œuvre n'étaient pas évidentes sur la liberté de ces radios. Il y a eu beaucoup de dissensions dans les équipes qui étaient déjà petites, hein, dans les radios, dans les équipes de radio, elles sont... C'est pas non plus un meeting, hein. Mais il y avait donc dissension et débat sur radio commerciale, radio privée, radio associative, etc. Et c'est vrai, des militants comme ça, des militants comme moi, on s'est un peu, voilà, on n'a pas participé à la bataille du pouvoir du micro.
Vous
on
avez
va dire.
Plus fait de radio après 80.
Oh bah j'ai fait beaucoup de radio, mais
oui, pas en tant que
plutôt en. J'ai beaucoup fréquenté Radio Pluriel, évidemment. J'ai une pensée pour Patrice, mon pote, puisque lui, il était déjà dans l'histoire des radios pirates. Et il ne le dit pas, il faisait partie de la bande, quoi. Donc, ce n'est pas par hasard s'il a été aussi culturellement structuré sur les radios libres. Et puis ensuite, Radio Canu, donc c'était quand même... voilà, c'est ceux qui sont venus vraiment directement de Radio Léon. Qui sont battus avec ce qui était plutôt intermédiaire, ni radio commerciale, ni radio associative, une radio professionnelle. Mmh. En fait, il y avait ces trois voix. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai pas participé aux différents rapports de force et débats sur ces questions, même si j'avais mon idée, en effet. Hein, mais RCF, Radio Fourvière, enfin, qui est Radio Fourvière, elle s'appelait RCF à l'époque, je crois. RCF.
Oui, oui, oui.
Hein, c'est ça, RCF, Radio Canu, Radio Pluriel, et puis les radios traditionnelles que je fréquentais parce qu'il y avait quand même des journalistes qui venaient nous voir et nous tendre le micro.
Mmh, bien sûr. Et Patrick Gervais, vous avez continué
En 81, quand Mitterrand il a tenu une de ses promesses, parce qu'il ne les a pas toutes tenues, mais enfin celle-là, elle nous tenait à cœur. Celle-là et l'Arzac, ça nous tenait à cœur. Donc c'est bien. Nous, ben, on a fait la fête. Hein. On avait prévu le 31 juillet, je crois, le 31 juillet ou le 3 juillet à Villefranche, d'investir la Bourse du Travail ou le Foyer des Jeunes Travailleurs, je crois, et de faire notre première, tellement on était sûr qu'il allait gagner, et de faire notre première émission en direct, en public, quasiment toute la journée. Hein. On avait monté un émission. Alors là, il est passé tout le monde, les syndicalistes, les commerçants, les étudiants, les profs, les artistes, les guitaristes, tout ce que vous voulez. Et puis, alors, coup de bol, on a pu la faire, mais là, on l'a fait en grand, parce que, voilà, on pouvait plus nous courir après. Donc, que nous, on... Alors après, bien entendu, là, on a fait un an la fête, quoi. Hein, on peut dire, même à l'antenne, hein, c'était un peu... on aimait bien le rock, mais même l'antenne était rock'n'roll, quand même. Et,
Et puis après, on s'est structuré, quoi. Donc, on a pu prendre notre premier local. Et puis, on s'est installé.
Je suis désolée, on a déjà pris beaucoup de temps. Et puis, sur cette période, justement, légale, structurante de la deuxième partie. Mais je voulais juste une dernière question avant de donner la parole à la salle pour Roger Masson. Donc, vous faisiez partie des journalistes de la presse alternative qui relayaient justement ce qui se passait sur les ondes, sur la bande FM. Mais comme les animateurs et les participants des radios libres, vous œuvriez bénévolement. C'est aussi important de dire que c'était... Oui. Du coup, c'est des choses qui se rapprochent, oui. Puisque votre activité... Voilà, vous aviez d'autres activités en parallèle pour financer votre engagement.
J'étais bêtement prof. Ça permet de vivre. Mais moi, vous permettez, juste une petite partie sur le début des radios. Ouais. C'était, comme j'ai essayé de le dire, dans un état d'esprit qui n'était pas limité aux radios. Les radios, comme la presse écrite alternative, c'était des outils au service d'un courant social ou sociétal qui voulait explorer d'autres champs. Et parmi ces champs, on l'a évoqué, mais je veux revenir un tout petit peu dessus, c'est que non seulement on était en relation avec nos amis italiens, parce que le Partito Radical défendait à peu près la même démarche sociétale, mais moi, je fais partie des gens qui ont eu la chance d'être accompagnés par le KGB de Varsovie, parce qu'on était un peu allés faire de la propagande de même ordre là-bas, avec des manifs. Donc moi, c'est vrai que j'étais peu investi dans les radios, enfin... On se tenait au courant quand même. J'ai contribué à aller chercher des pièces et des choses comme ça, bosser avec les physiciens sur la conception de certaines choses, mais aussi d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc c'était l'époque où émergeait Solidarność. C'était aussi l'occasion d'aller rencontrer des gens qui, eux, s'intéressaient vachement à ce qui se passait en Europe de l'Ouest. Et puis même en Allemagne, il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, Berlin, c'était une île au milieu de l'Allemagne de l'Est. Mmh. Et que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de reportages, ni de radio, ni française, qui expliquaient l'état du monde européen ailleurs, ni de l'autre côté de la Méditerranée d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc il faut essayer de comprendre que les radios, comme la presse alternative, c'était... l'émergence d'une pensée sociétale, on va dire.
Oui, solidarité aux opprimés, des choses comme ça. On a même envoyé des émetteurs en Pologne. On faisait des grandes rencontres avec les Espagnols. Enfin bon,
les Espagnols, les Portugais.
Ouais.
Et ça, c'était avant 81. Il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu... vraiment ça, deux...
C'était pendant les pirates.
Oui, c'était les pirates.
C'est ça allait avec...
Merci beaucoup. On pourrait continuer pendant des heures cette discussion. Merci encore à vous, nos trois invités, donc Dida Tazdaït, Roger Masson et Patrick Gervais. Restez parce qu'il va peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou des témoignages. Est-ce qu'on n'a pas le temps ?
Non.
Vraiment quelques minutes, parce qu'on a effectivement pris un peu de retard, mais s'il y a des...
Alors, juste une question, vous y avez un peu répondu. Qui vous écoutait ? Est-ce que l'audience était inexistante ou est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient fidèles ? Et est-ce qu'il y avait un véritable programme ou bien vous preniez le micro à l'occasion, vous faisiez ce que vous pouviez à ce moment-là et puis c'était fini ?
Ben non, c'est tout simple. Comme je disais tout à l'heure, des fois, on émettait que pour faire savoir qu'on émettait. Mais quand on était appelé, comme au col de la Madeleine, pour lutter contre... ils voulaient pourrir la moitié de la vallée. On avait été faire des émissions là-bas avec la camionnette. Là, ben, tous les gens du coin avaient été prévenus. Comme ils étaient tous contents, ils écoutaient tous. Donc ça dépendait, quoi. Ça dépendait. À la Croix-Rousse, je ne suis pas sûr que quand on émettait... il y a beaucoup de gens qui nous écoutaient, même si ça avait été très annoncé. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, il a commencé à vraiment vouloir rechercher entre guillemets, de l'audience. C'est à partir de 80.
Oui, juste 5 secondes. Bien sûr. Il a répondu. On passait quand même
un petit programme avec de la musique. On avait une cassette, Les Migrants, La Rafle, Commissariat Machin, Les Émeutes à Vénissieux, des choses comme ça. Puis entre-temps, il y a... Mais surtout, l'outil de la cassette enregistrée qui circulait, sur le même principe que le podcast maintenant qui circule sur Internet, c'était un outil. C'est-à-dire le travail qu'on faisait, on l'optimisait après, surtout dans les réseaux où ils écoutaient selon les thématiques qui intéressaient les associations ou les organisations concernées ou les structures. Et donc, c'est la production de cette cassette mobilisable et mobile facilement, c'était quand même un atout, un avantage. On capitalisait ce travail-là qui pouvait paraître éphémère.
Et juste sur le lien avec les auditeurs, auditrices, parce que je voulais poser la question, vous aviez pas, par exemple, vous donniez pas d'adresse ou de boîte postale ou de, il y avait pas de courrier.
Non, on était clandestin, c'est clair.
Oui, je sais qu'il y a certaines radios, enfin, notamment une radio pirate à Paris qui donnait une boîte, qui avait pu avoir un peu de courrier, mais il n'y avait pas de lien comme ça avec les auditeurs.
Oui, mais ça dépend du profil de la radio pirate. C'est vrai que nous, on était quand même, on devait avoir une croix rouge sur notre dossier aux renseignements généraux, quoi. Ouais. On parlait politique, sans complexe, hein, et on menait des luttes. C'était clairement des combattants que ça réunissait. Et on diffusait pareil l'information sur les réseaux concernés pour qu'ils réunissent leurs adhérents et qu'ils écoutent soit en direct, soit la cassette future.
Moi, j'avais une très bonne relation avec la gendarmerie, parce qu'ils venaient quasiment me faire une bise une fois par semaine.
T'étais pas étranger,
en me demandant. Non, j'étais. Enfin, pour eux, j'étais un martien quand même.
Martien. Donc,
c'est, oui. Donc, en fait, on avait des relais, notamment alors avec la connexion avec la presse alternative écrite, parce que on parlait de ce que les radios faisaient et on laissait comprendre que dans telle zone, il était possible d'entendre des gens qui allaient donner la parole. Et éventuellement parler de tel type de sujet. Et donc ça devait avoir un écho. Enfin, puisque du coup les ventes de la presse écrite, moi je dis qu'il y avait un lien entre les deux. la presse alternative, elle marchait bien à la gueule ouverte. On tirait pas autant que le canard enchaîné, mais presque. C'était devenu et tout ça avant 81. Je parle bien des années 74-81. C'est pour moi la période où il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Après, oui, mais c'était l'arrivée de Mitterrand, les caciques du PS et tout ça. C'était pas Cyrus Clair, par exemple, puisqu'on l'a évoqué. Il était un peu atypique.
Le troisième point qu'il a soulevé tout à l'heure, c'est le fait même de l'existence de la radio militée en soi. Et Radio Pipelette, c'est parfaitement l'exemple. On n'a pas beaucoup diffusé, on n'a pas... un an avant que les radios soient, le monopole d'État soit aboli. Et c'était clair que c'était par rapport aux garçons, aux militants, aux réseaux associatifs que nous voulions sensibiliser. Alors, Pipelette, c'était un peu ironique, hein, puisque les hystériques, les pipelettes, etc., c'était un peu pour provoquer. Et c'était exactement cette fonction-là de sensibilisation.
Très bien.
Juste dire un petit mot. Juste pour dire qu'à Radio Canu, c'est pareil, on était filtrés, enfin on était fléchés et tout. Et l'idée, c'était de ne pas donner une adresse, justement, pour ne pas que les militants individuellement soient pris pris en chasse. Et c'est vrai que souvent, ce qu'ils cherchaient, c'était ça, chercher quels étaient les leaders. Et on a un souvenir d'une grande offensive à la Maison des Passages, qui est maintenant la Maison des Passages, quand ils étaient venus à je ne sais pas combien de flics, et puis bon, c'était juste la veille du bac et il y avait tout plein de jeunes. Et l'idée, c'était de ne pas dénoncer. Ils voulaient emmener tout le monde. Et là, c'est le seul moment où on a accepté de donner deux noms.
Trois.
Oui, ma mémoire, elle flanche. Pour pas qu'ils emmènent tout le monde. Mais ça veut dire quand même l'affrontement tout à fait frontal entre le monopole, les forces de l'ordre et puis les militants des luttes, comme tu le disais si bien. Et c'est vrai qu'à cette période, c'était pas le programme. C'était pas ce qu'on émettait, parce qu'on n'y arrivait pas. Et y compris, il fallait chaque fois, quand ils piquaient les émetteurs, il fallait les racheter. Hein. Donc, je ne vous dis pas, la mobilisation, elle était plus du côté de cette technique-là, parce qu'il fallait que la technique se fasse, en lien avec les Italiens, tout ce que vous avez dit. Mais c'est vrai que la mobilisation, elle était plus celle du coup des gars qui connaissaient la technique. Hein. Voilà, il n'y a pas photo, c'est comme ça. C'était le partage des tâches comme ça, à cette époque. Mais je crois que c'est quand même important de dire ça, parce que ça a été une période... où pour rester sur de la communication héritée de 68, en fait, tout ce que vous avez dit, il fallait que les radios libres puissent avoir des émetteurs. Et c'était complètement centré là-dessus. Et la chasse avec les flics, voilà, point barre.
C'était...
Merci, donc c'était Simone Daré de Radio Canu, qu'on va réentendre tout à l'heure, mais sur la partie légale. Si, si, mais vous participez, je crois, à la deuxième table ronde. Et s'il n'y a pas d'autres questions, enfin, je pense qu'il est temps de faire une courte pause. Café, voilà. Merci encore à vous trois.
Merci.